matière à penser, Antoine Garapon.
C'est l'obéissance qui sera notre matière à penser ce soir. L'obéissance, un acte que nous accomplissons tous les jours sans peut-être penser à l'engagement philosophique qu'il contient. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Gros. Frédéric Gros qui est philosophe, qui a signé un certain nombre d'ouvrages et tout récemment chez Albin Michel, un livre intitulé « Désobéir ». Bonsoir Frédéric Gros.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors pour comprendre l'obéissance, il faut partir de l'acte d'obéir. L'acte d'obéir, et vous dites même d'ailleurs de surobéir.
C'est vrai que l'obéissance en fait est une énigme. C'est peut-être même une énigme beaucoup plus que la désobéissance. Parce qu'après tout, la désobéissance, on comprend. Il y a qu'à regarder l'état du monde autour de nous, la dégradation de l'environnement,
l'indignation,
les désobéir. Les inégalités économiques abyssales. Il y a des scandales de toutes sortes. Et c'est vrai que par rapport à cette multiplicité, cette profusion de choses dont on pourrait s'indigner, on constate beaucoup trop une passivité, une résignation, en tout cas une posture d'obéissance qui est peut-être ce qu'on a le plus à partager et ce qu'on a en commun, oui.
D'obéissance au monde, d'obéissance passive aux lois du monde, y compris aujourd'hui aux données, aux fameuses données, aux paroles des experts qui nous dictent en quelque sorte ce que la science, ce que les algorithmes nous enseignent.
Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs styles. Ce livre sur la désobéissance est un livre qui tente de déduire des formes de désobéissance à partir d'une stylistique de l'obéissance.
Qu'est-ce que ça veut dire une stylistique de l'obéissance?
Je voulais poser cette question qui, au fond, a été assez peu posée dans la pensée politique, des formes d'obéissance, parce qu'après tout, on s'est beaucoup interrogé sur la politique comme organisation, sur les composantes sociales du politique, sur la distribution des pouvoirs, etc. Mais le problème de la politique comme expérience et du sujet politique, c'est quelque chose qui a été assez peu posé. Et au fond, le problème de l'obéissance et de la désobéissance, c'est le moment où on va essayer d'analyser l'articulation d'un sujet sur le politique. Et pourquoi est-ce qu'on obéit? Comment est-ce qu'on obéit? Ça a été effectivement ma question.
C'est en ça que ça renvoie à ce que vous appelez la structuration éthique du sujet politique. C'est-à-dire aborder la politique par la résonance, on pourrait dire, que les affaires du monde ont chez le sujet.
Tout à fait, parce qu'on est quand même très envahi dès qu'on parle de sujet par des données psychologiques, c'est-à-dire que dès qu'on pose la question de l'obéissance, on va essayer de montrer comment une certaine configuration familiale ou un certain sentiment d'abandon peuvent expliquer pourquoi on obéit, pourquoi on surobéit, etc. Et à côté de ce sujet psychologique, on a un sujet juridique de la tradition juridico-philosophique, le sujet de droit, l'espèce d'atome comme ça juridique. Et je voulais essayer de faire parler un sujet qui est ce que j'appelle un sujet éthique, ce qui signifie pas traversé par des valeurs, mais ce qui signifie traversé par la configuration d'un rapport de soi à soi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment je vais m'autoriser à obéir ou à désobéir? Qu'est-ce qui fait que quand on, par exemple, me demande d'effectuer des tâches que je réprouve, quand on me donne des ordres que je trouve répugnants, qu'est-ce qui fait que je vais exécuter ses ordres?
Et vous parlez d'ailleurs d'un bricolage tenace de nos inquiétudes éthiques. Dans le fond, on n'est pas sûr de grand-chose lorsqu'on doit s'affronter à une loi générale ou qu'on s'affronte à un ordre.
On n'est pas sûr de grand-chose, effectivement, et cette puissance de l'inquiétude, elle va être justement désamorcée par l'obéissance. Je veux dire par là qu'une certaine manière d'obéir, ça va consister à dire finalement, en obéissant, je peux moi-même me dire que j'obéis, j'ai pas les moyens de faire autrement, le coût de la désobéissance serait trop élevé, etc. Et finalement, obéir, c'est se priver de cette inquiétude qui est quand même au cœur de la liberté. Et j'allais dire que ce que je retraverse aussi par ce livre, c'est cette finalement idée assez terrible qui consiste à dire que oui, qu'on obéit. moins par soumission objective que par lâcheté et oui par défaut de courage
ou par défaut de raison pour ne pas désobéir.
Pour ne pas désobéir, oui, ou pour ne pas... Le problème de l'obéissance aussi, on touche ici, on y reviendra peut-être, Antoine Garapon, au souci au concept de conformisme, c'est qu'on obéit aussi pour faire comme les autres. Et qu'une des seules manières de faire société ensemble et de faire communauté, on trouve ça par l'obéissance.
C'est respectable par certains côtés, parce qu'effectivement, on fait pas société sans se conformer à certaines règles sociales. Et à la limite, vous le dites d'ailleurs, si à croire Durkheim, on est constitué par ces règles sociales. Il y a des règles sociales en nous avant même qu'on obéisse.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la difficulté de ce de ce qui pourrait passer et ce qui est un certain éloge de la désobéissance, puisque je dis que désobéir c'est aussi un acte d'humanité. La difficulté c'est que on peut m'objecter et avec raison. Enfin les incivilités. Oui, est-ce que la désobéissance c'est pas aussi la facilité?
Il y a une mauvaise désobéissance.
Mais de la même manière que désobéir ne peut pas être considérée a priori comme une vertu, mais l'obéissance non plus. Alors qu'elle l'a été considérée comme une vertu en soi.
Vous faites remarquer d'ailleurs que avant on condamnait les gens parce qu'ils avaient désobéi et que le tournant de Nuremberg et de l'après Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on commence à punir des gens parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils n'ont pas exercé une sorte de scrupule, de regard scrupuleux, interrogatif sur le monde.
Ça, vous avez raison. C'est-à-dire l'espèce de grand changement de paradigme, c'est que le problème de l'obéissance et de la désobéissance, il a été pris pendant très longtemps à partir du doublet de l'homme et de l'animal. Qu'est-ce que c'était que devenir un homme? C'est faire l'apprentissage de ses règles communes, c'est ne pas être esclave de ses pulsions anarchiques, c'est ne pas se laisser traverser par des passions désordonnées, et au fond, l'obéissance dans l'éducation était une voie d'humanité. Le problème et la terrible leçon de l'histoire du XXe siècle, c'est que ce doublet de l'homme et de l'animal, il a été remplacé par une autre polarité beaucoup plus terrible qui était l'homme et la machine. C'est-à-dire que j'obéis, mais de manière machinale, de manière aveugle, sans me poser de questions. Et à partir de là, quelque chose comme la désobéissance devient un acte d'humanité parce que, précisément, c'est le moment où je dis « je ne suis plus une machine, je peux être moi-même l'auteur de mes actes ».
Mais est-ce qu'il n'y a pas une coexistence possible de ces deux propositions? Parce que pour désobéir, il faut avoir obéi. Pour parler, il faut avoir obéi aux règles de grammaire. Il faut avoir été corrigé par un maître. Il faut avoir été éduqué. Et finalement, il s'agit de deux étapes successives, en quelque sorte, de la vie civique.
Alors oui, idéalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire dans le processus de ce qu'on appelle l'éducation, au fond, on forme les gens précisément à être bien disciplinés pour pouvoir, à un moment donné de leur existence, eh bien s'autoriser d'eux-mêmes, avoir un jugement critique, etc. Mais j'allais dire le souci et la difficulté, c'est quand même l'enquistement. C'est-à-dire qu'à un moment, l'obéissance devient une espèce d'automatisme.
Est-ce qu'on peut être éduqué à désobéir? Je manie le paradoxe, mais c'est-à-dire, est-ce que dans la trajectoire d'une éducation, on commence par apprendre les minimums pour se conduire en société, pour respecter des règles minimales, pour recevoir des messages, peut-être des valeurs, et puis ensuite se les approprier et transformer cet acte de réception en un acte délibéré de liberté?
Oui, mais cet acte de délibéré, cet acte de liberté, c'est-à-dire ce moment de pli où on ne fait pas que de se laisser traverser par des énoncés, mais où on les réfléchit, où on y apporte sa propre distance critique, elle inclut justement ce que j'appelle une possibilité de désobéir. La leçon, ce que Kant appelle les lumières dans ce texte, qui s'appelle « Qu'est-ce que les lumières ?», ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'il ne nous dit pas « c'est un segment temporel à peu près situé à la fin du XVIIIe siècle ». Les lumières, c'est une posture éthique. C'est la capacité qu'on peut avoir à s'autoriser de soi-même pour penser, à s'autoriser de soi-même pour agir. Et c'est ça que j'appelle finalement la désobéissance et la possibilité de désobéir. C'est-à-dire l'acte premier qui est un acte éthico-politique fondamental, c'est quand précisément, mon obéissance provient de, d'un commandement intérieur.
On pourrait dire que Kant représente, pour Kant, les Lumières, c'est le moment adulte de l'humanité, ce moment où l'humanité devient adulte, où elle peut s'autoriser elle-même à penser et à juger.
Oui, c'est le moment adulte, mais le problème de cette enfance qui l'a précédé, ce qu'il appelle l'état de minorité, c'est qu'il a un aspect, en même temps, tout à fait confortable. Alors, je me répète, mais Antoine Garapon, ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est que c'est quand même confortable de se laisser dire par un autre ce qu'il faut dire, de se laisser ordonner par un autre ce qu'il faut faire. Le problème de la liberté, j'allais dire le vertige que représente cette liberté peut apparaître à beaucoup comme étant quelque chose d'insupportable. C'est ça qui fait que c'est difficile de désobéir, parce qu'on se retrouve seul, parce qu'on doit porter seul la charge de ses décisions, de ses pensées, etc. Donc c'est vrai que cet âge de la majorité où on s'autorise à désobéir, c'est quelque chose de difficile.
Mais ça voudrait dire, Frédéric Gros, que dans la désobéissance, pour vous, à vous lire, il y aurait une sorte d'éthique de la solitude.
Alors, éthique de la solitude, au départ, c'est ce qui fait peur. C'est-à-dire qu'effectivement, une des explications par rapport, je donne deux ou trois énoncés, citations au début de gens qui ne cessent de dire, mais au fond, le problème, c'est pas pourquoi les gens se révoltent. Le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils se révoltent pas. Le problème, c'est pas de savoir pourquoi est-ce que les gens désobéissent, c'est pourquoi est-ce qu'ils obéissent si massivement. Il y a quelque chose comme la peur de la solitude. C'est-à-dire la peur de se retrouver isolé, et j'allais dire, c'est tellement facile de suivre le mouvement général. Après, si vous voulez, ce qui a été le vrai problème pour moi, et ce qui représente un vrai défi, et je crois même le défi pour la philosophie, c'est que quand je vais dire, mais au fond, on se retrouve seul, isolé, mais on se retrouve pas isolé dans sa particularité psychologique comme individu, à son histoire, etc. Ce que j'essaye de dire, c'est que précisément cette solitude est la condition, j'allais dire, d'une ouverture à l'universel. Le vrai contraire du conformisme, c'est pas l'individu particulier, c'est l'universel. Ça, c'est l'expérience de la désobéissance.
Mais comment éviter ce qu'on pourrait appeler une sorte de narcissisme de la désobéissance qui distingue, de la désobéissance snob, de la désobéissance qui satisfait à, non pas à un recentrage sur son soi, mais à un décentrage sur le regard des autres.
Je crois que là, on touche à l'expérience proprement du sujet politique, à l'expérience du soulèvement, à l'expérience des révolutions, c'est-à-dire à l'expérience des grands mouvements de soulèvement politique. Qu'est-ce que c'est que se découvrir comme sujet politique? C'est précisément d'abord se découvrir comme irremplaçable. Mais pas irremplaçable. Ça veut dire quoi quand je dis le sujet politique se découvre comme irremplaçable? Je suis pas en train de dire il se découvre tellement unique, tellement singulier qu'il ne peut absolument pas être remplacé par un autre dans le cœur des tels.
Ça peut être très narcissique.
Ça, c'est très, c'est narcissique. Mais l'expérience du sujet politique, c'est que face aux iniquités du monde, face aux injustices sociales, à un moment, je fais l'expérience que je dois y aller, c'est-à-dire que je ne peux déléguer à personne d'autre la tâche de me mettre au service de tous.
La part indélégable du sujet.
Ah oui, or ça, c'est l'expérience pour moi c'est quelque chose que j'ai un peu appris chez Yankelevitch, mais que ensuite j'ai retrouvé assez facilement dans ce que Foucault appelle le souci de soi, qui est pas un souci narcissique. Justement, c'est pareil.
Oui, est-ce que c'est tout, un itinéraire philosophique dans l'œuvre de Foucault, qui part d'une conception de la guerre civile, de rapport de force, de rapport collectif, de rapport violent, du contrôle social, et finalement, est-ce que le souci de soi, est-ce que cette éthique de la solitude pour se recentrer, mais sur quelque chose qui est à la fois en soi et au dehors de soi, est-ce que c'est pas l'aboutissement de l'itinéraire de Foucault?
Alors c'est un aboutissement, pourquoi? Parce que pendant très longtemps, vous prenez surveiller et punir, etc. Vous prenez ces cours au Collège de France sur les institutions pénales, il faut défendre la société. Ce qu'il examine, c'est avec une méticulosité tout à fait particulière, avec beaucoup de détails. C'est
une érudition
folle, c'est la complexité des systèmes qui nous enferment, qui nous disciplinent, qui nous localisent, qui nous font obéir, qui nous segmentent, etc. Sauf qu'à un moment, il se pose quand même la question de ces systèmes dans cette perfection presque diabolique. À un moment, il faut quand même décider de s'y accrocher. Et cet acte du sujet qui s'accroche à un système, c'est un acte personnel. C'est un acte, quand je dis que c'est un acte personnel, c'est que on peut pas, voilà, c'est ça l'idée. Et au fond, l'itinéraire de Foucault, c'est à un moment, le truc qui consiste à dire, la politique, c'est pas seulement des organisations, c'est aussi une expérience. Voilà.
Et cette découverte subjective de l'obéissance.
Une expérience subjective. Et quand il dit expérience subjective, et quand je dis expérience subjective, on n'est pas en train de faire de la psychologie. C'est-à-dire que ça signifie pas que c'est de l'histoire personnelle, c'est qu'à un moment, il y a une expérience, qui est l'expérience du sujet politique, où la possibilité de désobéir est au centre de ça.
Et en cela, il rejoint une tradition que vous faites remonter d'ailleurs, entre autres, à la Boétie. C'est-à-dire, c'est pourquoi, quelle est l'énigme du pouvoir, quelle est l'énigme de la servitude, comment un peut-il gouverner des milliers,
ah oui,
des dizaines,
alors ça,
de milliers
c'est...
d'hommes?
Vous avez raison. Je crois que des gens comme Foucault et même Arendt ont éprouvé de manière très forte après l'expérience totalitaire l'espèce de limite inhérente à un marxisme des rapports de force. C'est-à-dire, on vous dit finalement tout se réduit à des rapports de soumission économique, à des rapports de force,
à des déterminismes, à
des dominations. Nous racontez pas d'histoire quand on obéit, c'est qu'on est pris dans des inégalités de force, etc.
Qu'on n'a pas le choix,
que le coût de la désobéissance serait trop élevé, etc. Sauf qu'il y a un reste, c'est-à-dire que ce que vont faire Foucault comme Arendt, ce qui va traverser la pensée politique de l'après-guerre, quand je dis c'est l'analyse de ce reste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, je suis dans la soumission, sauf qu'il est possible que j'exagère le coût de ma désobéissance. Je veux dire par là que peut-être que cet état de soumission qui a servi de vecteur de démystification politique pour le marxisme, est en fait un vecteur de mystification éthique. C'est-à-dire que je me projette, je me représente moi-même comme soumis parce que c'est tellement facile, confortable, et ça consiste à dire, bah oui, que voulez-vous, j'y pouvais rien, on est prisonnier des rapports de force, etc. Et ce que fait la Boétie dans ce texte, qui nous surplombe au moins depuis...
Qui est séminal, d'ailleurs.
Ça nous surplombe depuis des siècles. Ça consiste à dire, mais vous savez, l'énigme du pouvoir, c'est pas celui de la domination. C'est-à-dire, il s'agit pas d'aller scruter la noirceur de l'âme du tyran pour se dire, mon Dieu, c'est atroce. Cette jouissance qu'ils ont à dominer, à maîtriser, c'est affreux, ce goût du pouvoir, etc. Non. Le vrai scandale, la vraie monstruosité, c'est la manière dont on obéit et plutôt dont on surobéit parce que, et la Boétie le dit en toutes lettres, en toutes phrases, si on ne faisait qu'obéir passivement, ça ne tiendrait pas une seconde. Si ce système politique tient, c'est qu'on en rajoute. C'est qu'on ne fait pas qu'obéir, mais qu'on donne des gages.
C'est qu'on aime, non pas obéir, mais on aime.
Et pourquoi pas? Peut-être qu'on aime obéir. Peut-être qu'il y a
une jouissance de l'obéissance. On aime celui qui donne les ordres, parce que l'image du monarque, du souverain, le grand corps collectif est quelque chose qui nous grandit.
Ça nous grandit et on a des existences par délégation qui sont lumineuses et c'est comme ça qu'on explique l'amour du chef. Parce que, et ça la Boétie le dit et c'est atrocement vrai, parce que ce chef tellement lointain et tellement lumineux, on est sûr qu'il nous aime tous pareil, c'est-à-dire qu'il ne fait aucune préférence et c'est la vraie démocratie.
Et vous avez cette formule, Frédéric Gros, dans votre livre, le tyran est la figure inversée du bouc émissaire.
Et ouais, oui, je pense que c'est c'est une idée qui m'a traversé, parce qu'évidemment je suis, enfin comme vous. J'allais dire hanté par tout ce que René Girard a écrit sur ces mécanismes du bouc émissaire, de la violence, etc. Mais je crois que le tyran, c'est celui qu'on est tous prêts à adorer, et que les deux mécanismes fondamentaux, c'est soit on fait surgir pour faire communauté, soit on fait surgir un ennemi, soit une figure de l'adoration.
Cette éthique de la désobéissance serait en quelque sorte de retenir sa part.
Voilà.
Ne pas la transférer ni sur le souverain, ni sur le criminel.
C'est cette phrase encore, je brode sur la Boétie, mais ce moment où on dit je vous demande même pas de vous révolter, je vous demande pas l'insurrection, parce que c'est compliqué, mais au moins arrêtez d'obéir.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et elle a peint sur sang, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier.
Je vous rappelle que vous êtes sur France Culture, Matière à penser, qui réfléchit ce soir avec Frédéric Gros sur l'obéissance ou la désobéissance. Et vous aurez reconnu, bien sûr, Léo Ferret dans Les Anarchistes. Les Anarchistes, c'est une forme de désobéissance, Frédéric Gros.
Oui, effectivement, je ne pouvais pas écrire un livre qui s'intitule Désobéir sans au moins mentionner les anarchistes et l'anarchie. Et c'est vrai que ça m'a aidé à penser quelque chose de très précis. C'est qu'au fond, au fond, je crois que la difficulté de la pensée politique, ça a été de trouver un modèle pour une obéissance qui serait une obéissance proprement politique. Parce qu'au fond, ce qu'a fait la pensée politique, souvent, c'est d'aller chercher des modèles un peu ailleurs. Parce qu'on peut obéir comment ? On peut obéir parce que Parce qu'on est soumis, ça, on en a parlé dans la première partie de votre émission. On peut obéir aussi par conformisme, parce qu'on suit les autres.
Mais Frédéric Gros, on peut aussi obéir par dévotion à l'intérêt général. Je pense à Rousseau. Rousseau a dit quelque chose d'un peu proche de ce que vous dites, dans le sens où l'intérêt général, la volonté générale, dans les termes de Rousseau, c'est quelque chose que chacun détient en soi et qui met en commun pour créer des institutions.
Et oui, est-ce que les anarchistes m'ont aidé à trouver, c'est jusqu'à quel point ce modèle qui pouvait apparaître comme puissamment et proprement politique, le modèle du consentement républicain. C'est-à-dire l'idée, au fond, d'où est-ce que provient l'obéissance politique ? Pour aller vite, nous ne sommes pas des esclaves, ce serait de la soumission. Nous ne sommes pas des robots, ce serait du conformisme. Nous ne sommes pas des enfants. Ce serait de la subordination, on obéit parce qu'on reconnaît la légitimité de celui qui commande et on est persuadé qu'il donne ses ordres pour notre bien. Mais on obéit parce que on a depuis toujours consenti à la volonté générale, selon ces diverses expressions, ou consenti, pour prendre le modèle de Hobbes, au pacte sécuritaire. Mais ça, ce que les anarchistes ont montré, en mettant en parallèle, si vous voulez, en disant c'est les deux grands ennemis, c'est quoi le droit de vote et le mariage. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, il s'agit de dire vous avez déjà consenti, il est trop tard pour désobéir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le modèle du consentement républicain ? C'est un modèle qui consiste à verrouiller l'obéissance du sujet et à dire c'est très bien, mais vous avez depuis toujours accepter librement d'obéir et maintenant circuler, il n'y a rien à voir, il est trop tard.
Alors là, vous vous rapprochez du précipice en parlant des anarchistes et de la révolution, Frédéric Gros, parce que la révolution, c'est aussi cet immense acte de révolte collective et qui fait disparaître tout libre arbitre et on voit quel ravage ça a causé au XXe siècle. En écoutant Léo Ferré, en vous écoutant, je pense à ce passage d'Orwell dans Hommage à la Catalogne où il dit, où il explique que les communistes obligent les anarchistes, les anarcho-syndicalistes auxquels il appartient, au POUM, en disant les obligent à suivre une ligne, la ligne du parti. Et il est choqué parce que c'était contraire à ce qu'il avait vu, ce qui était contraire à ce qu'il voyait. Et ça me fait penser à cette phrase de Raymond Aron, le problème c'est pas que les intellectuels disent ce qu'ils voient, mais c'est ce qu'ils voient, qu'ils voient ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils...
Tout à fait. C'est-à-dire que je pense que le problème qui s'est posé à moi, mais ça vous le, ça c'est quelque chose qui est présent dans ce que vous me, dans la question que vous me posez. C'est une fois que j'ai dit, c'est très bien, il y a une éthique de la désobéissance, il faut s'autoriser pour aller vite, voilà, il faut du jugement critique, ça commence par ça, c'est aussi le fruit de l'éducation, etc. Se pose le problème du comment est-ce qu'on va désobéir ensemble? C'est-à-dire comment est-ce que ça va pousser. Je veux dire, le problème, c'est celui de ce qu'on va appeler la désobéissance civile aussi. C'est-à-dire le problème des formes. Comment est-ce qu'une forme collective de désobéissance pourra se développer sans que précisément on en arrive à une simple substitution de maître, c'est-à-dire qu'on passe d'un tyran à l'autre, etc.
Qui a été le scandale de la révolution au XXe siècle.
Oui, mais c'est pour ça que Foucault distinguait le soulèvement et la révolution. C'est pour ça aussi que Kant disait, au fond, toutes les révolutions sont ratées, mais en même temps, elles sont toutes réussies. C'est-à-dire que, j'allais dire, dans leur moment initial, dans ce qu'elles projettent, comme précisément capacité de chacun à se trouver irremplaçable pour se mettre au service des autres et à prendre les Bastilles, etc., à ce moment-là qui est le moment séminal des organisations, qui est celui de la révolution, j'allais dire quand elle est dans son effectuation et non pas
et dans
comme
ce moment
organisation, dans ce moment incandescent, ça, si vous voulez, c'est ce moment-là qui fait, oui, c'est ce moment-là qui est important. Après, évidemment que ça retombe et que, à nouveau, vous avez des calculs politiques. Et encore une fois, Kant le disait très bien, toutes les révolutions sont ratées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va vous dire, ah bah oui, tout ça pour ça, regardez, ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Sauf que ce qu'a dégagé ce moment initial de la révolution, c'est cette capacité que chacun peut avoir à se mettre au service des autres.
Comment, Frédéric Gros, comment est-ce que l'acte de désobéissance peut avoir une durée, une temporalité? Est-ce que la désobéissance, en d'autres termes, c'est pas toujours un moment? un moment, le moment où l'on décroche, l'on dit non.
Ouais, c'est vrai qu'il y a que. Or ça, j'ai assez peu regardé, mais vous avez raison. Il y a
sauf avoir une attitude.
C'est une rupture.
Attitude existentielle comme Thoreau. Aux États-Unis, par toute sa vie, témoigne de cette désobéissance.
Ouais. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé avec Thoreau, qui, bon, d'abord, il avait écrit un petit texte qui s'appelait Marcher, qui m'avait servi pour un autre livre sur la marche. C'est celui qui a écrit l'essai séminal sur la marche et aussi sur la désobéissance civile. Il faut marcher autant que penser. Et sur la désobéissance civile, il a jamais prononcé le nom, hein. C'est un titre qu'on a donné après. Mais, vous voyez, ce qui m'a frappé avec Thoreau, c'est que quand vous regardez l'histoire comme telle, en fait, ça va pas très loin, quoi. Il passe une petite nuit en prison, comme ça.
Prison municipale, ça devait pas être bien dur.
Une prison municipale où le matin, on essaye un peu de le sortir parce qu'une tante a payé l'arriéré d'impôt pour lequel il était emprisonné. Il se fait même un peu, j'allais dire, un peu forcer la main pour sortir de prison, etc. Et ce texte, Martin Luther King le dit, Gandhi le dit, et même Tolstoï le dit, a représenté quelque chose de très important pour les penseurs de la désobéissance civile. Parce que, et je reprends les mots que vous avez employés, parce que précisément, il montre que la désobéissance dépend d'une conversion intérieure. Et s'il n'y a pas ce travail sur soi, s'il n'y a pas cette tentative d'accorder, de faire de la désobéissance quelque chose comme le témoignage d'un mode de vie et la manifestation d'un travail sur soi, eh ben la désobéissance n'est qu'une posture.
Et Gandhi, lui, il ne marchait pas, il a marché aussi, il filait le coton.
Pour cela. Alors pour cela et la prière aussi, c'est-à-dire que les actes pour Gandhi, c'était le filage du coton, pour Martin Luther King, c'était plutôt la prière. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a de désobéissance authentique qu'à partir du moment où on est un peu à la première personne. La difficulté pour moi, ça a été, mais peut-être parce que je vis au 21e siècle. Ça a été essayer de montrer en quoi cette première personne du sujet politique n'est pas une individualité. C'est le problème qui est celui de notre siècle. C'est qu'on a fait, j'allais dire, du « devenez vous-même, soyez vous-même ».
Authenticité.
Authenticité, affirmer votre individualité la plus singulière, la plus unique, le grand vecteur d'un néoconformisme absolu. On n'a jamais autant obéi depuis qu'on demande à chacun d'être soi-même.
Mais est-ce que le problème que vous soulevez, Frédéric Gros, n'est pas renvoyé à la philosophie ? Est-ce que la philosophie elle-même n'a pas désincarné le sujet pour en faire le siège d'une volonté, pour en faire l'accrochage d'une activité, d'une action ? Et une histoire de la philosophie, elle a été gagnée par l'érudition, mais finalement, elle en a oublié cette dimension essentielle qui était celle des Grecs, celle de l'amour, de la sagesse. Vous insistez beaucoup à propos de Socrate, la philosophie comme discipline de vie avant d'être une discipline de pensée.
Ouais, mais je dirais pas ça exactement de cette même manière. Parce que quand on dit discipline de vie plutôt que discipline de pensée...
Orientation de la vie.
Oui, c'est ça.
Pas discipline,
plutôt que système de connaissance.
Tout à fait.
Plutôt que système d'énoncé qu'il faudrait apprendre, répéter, etc. Vous avez raison en ceci, que pour moi, ce livre m'a permis d'approcher à quelque chose qui me semble être une spécificité très très forte de la philosophie comme régime de pensée. La philosophie est peut-être cette seule forme de pensée où on va exiger de chacun qu'il pense à la première personne, c'est-à-dire où on va poser que philosopher, c'est se trouver soi-même irremplaçable pour penser au fond un calcul, on peut le faire par un autre. Ce sera le même résultat.
C'est tout le problème des algorithmes aujourd'hui. C'est la machine qui peut se substituer à nous.
On peut le substituer. Et ce que dit la philosophie, c'est si vous pensez philosophiquement, ça signifie d'abord que dans l'effort que vous allez produire pour tracer votre chemin de vérité, vous êtes irremplaçable. Et c'est ce qui fait que vous avez des dialogues chez Platon, etc. C'est toute la leçon de la République et c'est toute la leçon socratique. C'est ça le souci de soi. Ça consiste pas à dire revenez vers votre petite personne, prenez soin de votre corps, de vos plaisirs, etc. Ce que dit Socrate à l'Agora, c'est quoi? Il va voir ses concitoyens, il leur dit je vois bien, vous vous occupez de votre réputation, vous vous occupez de vos plaisirs, vous occupé de vos richesses, de votre corps, mais est-ce que vous vous souciez de vous-même? Donc on voit bien que ce qui apparaît, c'est une espèce de soi qui est pour moi un sujet politique et qui est la manière dont à un moment on va se soucier de soi, c'est-à-dire ne pas arrêter d'agir de manière automatique, simplement conforme,
mais,
etc.
Frédéric Gros, vous vous rapprochez d'une difficulté majeure, que vous nommez d'ailleurs dans votre livre, c'est comment se faire tiers à soi-même sans le secours de la religion, de l'humanité avec un H majuscule, de la révolution, de la compassion, bref, sans le secours d'une force externe, transcendante, qui viennent faciliter cette opération. Comment pouvoir garantir qu'on n'est pas dans une euphémisation du narcissisme qui se complaît à se regarder soi-même? Où tracer cette frontière ténue, finalement, entre le rejet de ces grandes notions qui ont montré les désastres que l'on a vus au cours de l'histoire et continuer de croire à ce qu'un sujet puisse se mettre à la verticale de lui-même, en quelque sorte.
Ouais, vous avez la difficulté, elle est colossale, parce que précisément, ça a été la terrible leçon du XXe siècle. Derrida disait, quand il parlait du pardon, on ne pardonne que de l'impardonnable. Et au fond, ce que le XXe siècle nous a appris, c'est que on ne justifie que de l'injustifiable. Ce que je veux dire par là, que l'humanité avec un grand H, le prolétariat avec un grand P, la race avec un grand R, l'histoire avec un grand H, ça a été des principes de justification, et ce qui a été justifié à chaque fois, c'était l'injustifiable, c'est-à-dire des violences, des... Alors, comment faire pour désobéir sans que, précisément, cette désobéissance ne soit pas une espèce d'accrochage à ces immenses principes? C'est ce que j'appelle, moi, la dissidence civique. C'est-à-dire, c'est ce moment où on fait simplement l'épreuve qu'on peut plus continuer à se mentir, à ne pas voir, à faire semblant, etc.
Alors, vous parlez aussi la dissidence civique, mais il y a quand même une expérience particulière dans la religion. La religion a enthousiasmé, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire...
Oui, Dieu pouvait faire partie de ces majuscules,
exactement.
Avec l'histoire,
et
le
pourtant,
prolétariat.
Et il y a cette grande tradition occidentale de l'obéissance mystique, de l'obéissance qui est l'aboutissement d'un travail sur soi et d'un travail d'abandon de soi, mais d'abandon délibéré et d'une liberté soutenu, continue dans l'expérience mystique. Comment vous l'expliquez, Frédéric Gros?
Alors ça a été assez redoutable pour moi, parce qu'au départ, ce que je sentais, quand je dis le christianisme, c'est un continent. Alors je sais, c'est une espèce de fiction.
Oui, c'est une histoire.
C'est une histoire
très longue.
Et c'est vrai, c'est une histoire très longue. Mais c'est vrai que le christianisme a énormément valorisé l'obéissance. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce qui fait partie de l'histoire du dogme, puis l'un des plus puissants dogmes chrétiens, c'est quand même le péché originel. Et j'allais dire s'oublier, ne pas manifester le je. On ne peut tracer le chemin du salut qu'à partir d'une obéissance, parce que précisément, si je manifeste le je, je suis dans le péché. Ce que j'ai trouvé, parce que vous y faites référence chez les mystiques, c'est une espèce de tour de vis absolument incroyable, où l'obéissance, à force d'être complète, parfaite, etc., devient une espèce de défi, devient une espèce de résistance incroyable, parce qu'il y a une profondeur de l'humilité telle que les ordres du maître ne sont jamais assez forts pour précisément pouvoir combler cette ouverture à l'obéissance qui est présente.
Épuise l'ordre.
Voilà. Oui, tout à fait. Oui, c'est une jolie formule, Antoine Garapon, que je retiens, oui. La mystique épuise l'ordre. C'est-à-dire, elle le fait apparaître comme étant, comme étant trop maigre par rapport à ses capacités d'obéissance.
Alors, vous avez aussi une expression dans votre livre qui m'a intrigué personnellement, en même temps qu'elle est suggestive. Vous dites, dans le fond, on pourrait contourner cette difficulté de l'action collective et de la désobéissance, la nécessité d'obéir qu'après inventaire, c'est de rechercher une co-vibration de plusieurs soies indélégable.
Ouais. C'est-à-dire que ce que j'essaye de dire, c'est que l'expérience du sujet politique, c'est-à-dire ce moment où je fais l'expérience d'une responsabilité politique, c'est-à-dire que je suis saisi par une injustice, et étant saisi par une injustice, je me sens dans l'obligation de répondre présent. Répondre présent, c'est-à-dire la dénoncer. Et je me sens irremplaçable pour la dénoncer, encore une fois, pas parce que je suis singulier, mais parce que, et c'est ça que j'appelle la dissidence civique, parce qu'à un moment, je peux plus faire autrement, je peux plus faire autrement. Ce moment-là, c'est pas un moment, j'allais dire, d'isolement et de repli sur le narcissisme. Si vous voulez, si vous avez quelqu'un de vraiment convaincu et qui fait part de l'expérience qu'il a de ne pas pouvoir, si vous voulez, de ne pas pouvoir faire profil bas et accepter l'injustice, eh bien oui, ça va résonner, oui, ça va évoquer des vocations, parce que, je rajoute ça, si vous voulez, on en a trop fait avec la formule d'Alain, je sais pas, elle est très connue, penser, c'est dire non, etc., voilà, qui consiste à dire que obéir, c'est toujours dire oui, etc. Mais je crois que quand on obéit, notre obéissance, elle est traversée par des tas de non. Non, je veux rien voir. Non, je veux pas d'histoire, etc. Et à un moment, c'est tout. On fait l'expérience, mais qui est pas portée par des valeurs. C'est qu'à un moment, on peut plus, quoi. On ne peut pas, c'est de la double négation. On ne peut pas ne pas dire, dénoncer.
Oui, mais ça, Frédéric Gros, ça, on le comprend bien, on le conçoit plus facilement pour des situations extrêmes. Et vous faites référence aux travaux de Jacques Semelin, par exemple, sur la résistance seule face à Hitler. Mais dans la démocratie, la vie est pleine d'injustices, de grosses injustices ou de petites injustices. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne obéissance? Je ne sais pas que je cherche à sauver l'obéissance, mais une obéissance démocratique. Et je crois que d'ailleurs que vous apportez une réponse dans votre livre.
Si vous voulez, le problème de la démocratie, c'est que je pense qu'il faut la dédoubler. Vous avez une définition, mais qui, encore une fois, est très légitime, je ne la critique pas, qui est une définition formelle, procédurale de la démocratie. La démocratie, c'est des règles de majorité. La démocratie, c'est des règles d'égalité dans les temps de parole, etc.
Et qui portent la volonté collective.
Et qui portent la volonté collective. Mais ce que j'essaye de dire simplement, c'est que cette procédure ne doit pas mettre complètement au ban ce que j'appelle la démocratie critique, c'est-à-dire le fait que la démocratie, au-delà des procédures, c'est aussi une exigence de toujours plus de démocratie. Et considérer que, si on considère que la démocratie se réduit aux règles, pour prendre la situation présente, on se dit, attendez, c'est fini, on a voté, etc. Maintenant, les règles ont été acceptées en toute transparence. Et maintenant, circuler, il n'y a rien à voir. Maintenant, sauf qu'il y a...
Est-ce qu'il n'y a pas un test de la bonne obéissance de la démocratie? C'est cette réversibilité des conditions et des statuts.
Oui.
C'est-à-dire, le gouvernant est en même temps un gouverné.
J'ai peur que ce que vous appeliez bonne obéissance, c'est ce que j'appelle moi la désobéissance. C'est-à-dire que précisément, c'est ça. Oui, c'est ça la réversibilité. C'est-à-dire que l'obéissance, c'est pas quelque chose à condamner, mais à partir du moment où cette réversibilité du sujet politique, c'est celle qui fait que je n'obéis que si je me commande d'obéir, et je reprends cette expression merveilleuse en français, j'obéis, oui, mais de mon propre chef.
Et s'il fallait augurer d'un avenir de la désobéissance, Frédéric Gros, comment vous le voyez?
Je ne sais pas, j'espère qu'il sera... Enfin, je ne veux pas faire de la désobéissance un mot d'ordre, parce que vous imaginez, je serais dans la contradiction dans les termes. Je ne dis pas désobéissez, mais je dis arrêtez un peu d'obéir.
Merci Frédéric Gros.
Merci Antoine Garapon. Thank you.
Matière à penser, Frédéric Gros, Pascal Bénard, Séam Boutata. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.